C'est une collection impressionnante. Vous avez ici quelques éditions extrêmement rares.
Sa bibliothèque était tout son univers.
Je comprends ça.
Vous êtes un privilégié. Il arrive à bien peu de gens d'entrer ici. C'est ma collection privée. Certains bibliophiles collectionnent les romans du 19e, d'autres les livres d'heures. Toutes mes éditions rares, elles, ont le même protagoniste. Le diable.
Je peux jeter un coup d'œil?
Oui. C'est pour ça que je vous ai amené ici. Magnifique, n'est-ce pas? Cette tendre patine, ces superbes dorures. Sans parler des siècles de sagesse qu'ils contiennent, je connais des gens qui tueraient pour une collection comme celle-là. Vous ne verrez nulle part au monde autant d'ouvrages sur le sujet que j'en ai réunis ici. Ce sont les plus rares, les plus choisis des éditions qui existent, et il m'aura fallu une vie entière pour les rassembler. Seul le suprême chef-d'œuvre manquait. Venez.
Bonjour et bienvenue. Salutations à toutes et tous, auditeurs, auditrices, c'est Bouquin Bouquine, l'émission de livres et de ceux qui les dévorent. C'est Flo derrière le micro, un programme à retrouver sur Graffiti Urban Radio, sur le site www.urban-radio.com. Podcast tonitruant à suivre sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Apple Podcast. Sur les réseaux Bouquin Bouquine, sur la page Facebook et sur Twitter. Cette semaine, un livre et son histoire. Écartez les oreilles chastes et n'oubliez pas, à toute fin utile, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est dit. D'abord, le titre, Massacre, Whisky et Rock'n'Roll. Un sacré cocktail, concocté par Monsieur Tristan Jousselin. Un ouvrage auto-édité et rédigé par un auteur de par chez nous. Petite présentation. Alors que Tristan vivait une enfance paisible sur la côte vendéenne, tout a disjoncté à l'âge de 7 ans en écoutant une cassette d'Iron Maiden. D'abord musicien, il griffonne en parallèle ses textes loufoques et gore durant son adolescence. Son cerveau est constamment en ébullition, l'écriture devenant le meilleur moyen d'étaler sa créativité et de partager son univers complètement barré et rock'n'roll. Évidemment, il joue dans un groupe de rock, son nom, c'est nous qu'on est là. Il a 35 ans, est parfois chauffeur de taxi, parfois préparateur de commandes ou prof de batterie. Auteur vendéen, je suis tombé sur ce premier livre de Tristan Jousselin en arpentant les allées de ma librairie préférée, au rayon polar. Un rayon que j'avoue assez mal connaître. Quand j'ai vu la couverture, que j'ai lu le titre, je me suis senti attiré instantanément, le feeling aiguisé. J'ai senti que l'intérieur de ces pages allait m'en promettre et m'en donner pour mon plaisir. Pour tout vous dire, j'ai discuté avec Tristan. Et je le remercie sincèrement pour sa patience de sage initié, car cette rencontre avec son travail date un peu. J'ai lu ce premier tome, et c'est maintenant un triptyque de 3 bouquins qui constituent cette fresque virulente, éthylique et sauvagement rock. Tout de suite, la 4e de couverture. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé des autres. D'un côté, Bill Campbell pensait être soulagé de sortir de la prison de Crimson Town, un immonde trou à rats qui empeste la merde. D'un autre côté, les Écervelés, un jeune groupe de punk, pensait trouver la gloire sur les terres d'une ville à la réputation sulfureuse. Mais ce qu'ils vont découvrir à Crimson Town est tout autre. La ville, devenue la plus dangereuse du pays, est désormais dirigé par un gouverneur sadique qui fait régner la terreur. Ils vont devoir affronter un monstre du catch, un gang de bikers diaboliques, des militaires intrépides et bien pire encore. Ont-ils une chance de s'en sortir dans une ville d'où l'on ne s'échappe pas? Massacre, Whisky et Rock'n'Roll va vous plonger dans un univers apocalyptique, un cocktail de violence, de suspense et d'humour noir menés par des personnages aussi déjantés les uns que les autres. Un livre de Tristan Jousselin, auto-édité par Tristan Jousselin.
Oui, mademoiselle. Écoute, Larbin, fais un peu moins de courbettes et essaye d'ouvrir tes esgourdes. Tu nous apporteras du whisky, beaucoup de whisky. Et durant le repas, le vin doit couler à flot, compris?
T'as pigé leur idée?
Non.
Elles veulent qu'on soit beurré.
Moi, je suis pour contre.
Tu tiens le whisky?
Ben, les premiers 10 litres, oui. Ensuite, je deviens nostalgique et je me bagarre pour oublier, et toi?
Ah, moi, on m'a élevé au whisky. Je bois ça comme du petit lait.
Prologue. Bill Campbell respire pour la première fois depuis 15 ans l'air frais de la liberté. Il a retiré sa tenue grise et essayé d'enfiler tant bien que mal le jeans qu'il portait lors de son entrée dans la prison de Crimson Town, vrai trou à rats dans une ville à l'image de son centre pénitentiaire. Bill a désormais la quarantaine et ses premiers cheveux blancs. Il reste beau garçon, malgré quelques rides anormalement marquées pour son âge, mais possède une belle musculature, entretenue en partie dans la salle de sport miteuse de la prison, où cohabitent les araignées, les rats et quelques tolards qui tentent de passer le temps comme ils peuvent. Et Bill en a longtemps fait partie, une sorte d'échappatoire dans un endroit où il avait peu d'amis. Son seul confident était Mike, une ancienne rockstar, qui s'est retrouvée ici après une bagarre lors d'un concert de son groupe à Crimson Town. Il a eu la mauvaise idée, il y a maintenant 10 ans, de planter le fils du maire, Jerry Kyle, avec son couteau. Son corps chétif mené par 4 grammes d'alcool local indigeste. Il s'en est sorti avec de lourdes séquelles, et son père a fait en sorte que Mike passe le reste de sa vie en taule. La raison pour laquelle Bill s'est retrouvé derrière les barreaux ressemble étrangement à l'histoire de son ami. Il était videur dans la boîte la plus fréquentée de la ville, le Horseman Party. Il avait 25 ans, un physique de boxeur et de grandes ambitions dans le cinéma en tant que cascadeur. Mais il est très difficile de se sortir d'un merdier comme Crimson Town, surtout quand on n'est personne. Il avait donc trouvé ce boulot la nuit pour payer le loyer, faire ses premières vidéos de démo et surtout mettre quelques sous de côté pour quitter la ville. Mais Bill avait un gros penchant pour l'alcool, comme la majorité des habitants de la ville, et lui est arrivé de devenir incontrôlable à l'entrée de la boîte en tapant un peu sur n'importe qui, pour n'importe quelle raison, jusqu'au jour où ce n'importe qui fut une grande armoire à glace nommée Duff Brown, une superstar du catch, le sport le plus populaire en ville. Un véritable sponsor pour le propriétaire du Horseman Party. La présence de Duff suffisait à remplir la boîte toute la nuit. Ce soir-là, Bill, bien imbibé du whisky local bon marché, le Dick Juice, n'avait pas du tout apprécié l'attitude hautaine et supérieure du catcheur. Le videur l'a mis KO en un coup, un bon crochet du droit bien placé dans la mâchoire. Il se souvient encore du craquement des os de sa main lorsque cette dernière a rencontré le visage carré de Duff. La carrière de ce dernier en a pris un coup et il ne s'est jamais vraiment remis de cette sombre soirée devant l'entrée de la boîte. Les gens n'ont pas autant retenu son héroïque ascension vers le toit de la discipline que sa mise au tapis par un jeune videur bourré du Horseman Party. Il était évident que ce coup allait rompre son contrat avec, en indemnité, 15 ans ferme. À Crimson, il n'existe pas vraiment de tribunal, juste un grand bureau où un pseudo-juge administre les peines à la demande des autorités, ces dernières étant les plus corrompues et vicieuses du pays. Bill a donc passé ses 5 années à ruminer avec Mike dans une cellule de 3 mètres carrés, infestée par les rats et les cafards, avec juste une petite lucarne pour laisser passer quelques rayons de soleil et surtout le froid durant l'hiver. Pas de télévision, pas de journaux, juste quelques vieux livres pour faire passer ses longues heures dans cette cage à lapins, à laquelle il manquait souvent des pages à cause du fait que le papier toilette se faisait souvent rare. Autre passe-temps, la baston, où Bill était loin d'être le plus mauvais. Il a amélioré sa technique et sa force et a réussi rapidement à se faire respecter. Il a perdu quelques combats au début, mais les a tous gagnés par la suite et n'a plus eu à se battre lors de ses dernières années d'incarcération. Mike a bénéficié de sa protection. Ce dernier était loin d'être adroit avec ses poings. Il a heureusement bien d'autres qualités, dont celle de voler n'importe qui sans se faire prendre. Il a, de plus, un talent vocal certain, gâché dans un lieu où l'art n'a que très peu de place. Les seuls artistes de la prison ont fini avec un trou béant au derrière, après une douche virile. Évidemment, pas d'alcool au réfectoire, mais de la bouffe dégueulasse, accompagnée d'une eau jaunâtre en guise de repas. Bill s'y est habitué, à la longue, bien que les premières semaines se résumèrent à de sérieuses diarrhées. Le fléau des nouveaux arrivants, surtout quand tu dois déféquer à quelques centimètres des narines de ton co-détenu et que tu n'as qu'une seule tunique par an. Des romans entiers y sont passés et ont bouché plus d'une fois le trou des toilettes, lavés eux aussi une fois par an. Mieux vaut être enrhumé les derniers mois de l'année. Alors, pour Bill, respirer l'air frais, à sa sortie, a une signification bien particulière. Après avoir passé une minute entière, les yeux fermés, à ressentir à la petite brise qui vient lui brosser légèrement les cheveux, il prend une grande inspiration et emboîte le pas direction la taverne de l'enfer. Le bar dans lequel il a passé une bonne partie de son temps durant sa jeunesse, pour s'y envoyer une bonne rasade de whisky. Ignorant encore que la ville est devenue un endroit encore pire que la prison dans laquelle il a passé ses 15 dernières années. Chapitre 1. La ville est à environ 3 km de la prison. 3 km allongeaient les champs de maïs sur une vieille route explosée, plus entretenue depuis bien longtemps. Bill trouve malgré tout le paysage joli. Ça lui change des murs gris de sa cellule, du gris des tenues des prisonniers, du gris du béton dans la cour, du gris des plateaux du réfectoire, du gris de ses pensées. Après une petite heure de marche, il aperçoit enfin la façade de la taverne de l'enfer. Cette dernière est beaucoup moins belle que dans ses souvenirs. La peinture s'écaille, les ampoules censées éclairer l'enseigne sont toutes explosées, la plupart des vitres sont brisées et surtout, le parking est quasiment vide. Une chose qu'il n'a jamais vue auparavant. Il décide d'y entrer, en espérant que l'intérieur soit mieux conservé. Une fois la porte dépassée, il a le soulagement de voir ce bon vieux Big Joe derrière le comptoir. Le barman n'a pas changé. Toujours aucun poil sur le caillou, mais avec une grosse moustache devenue poivre et sel avec le temps. Il arbore son tablier fétiche, qui a jauni avec les années. Le logo du bar y cache sa grosse bedaine. Ce dernier ne peut s'empêcher de s'exclamer en voyant la silhouette de l'ex-tolar dans l'entrée. Bill ! Big Joe !
Mais je n'étais même pas au courant que tu devais sortir !
Eh ouais, 15 ans déjà, fait Bill, avec le faciès mi-crispé, mi-soulagé.
Tu n'as pas changé !
Un peu, si, mais il ne faut pas exagérer, lui rétorque Bill, en souriant et en s'avançant vers le comptoir. J'avoue que je suis content de te revoir, mais les lieux ont changé ici. Ça fait bizarre. Ouais, répond Big Joe, la mine déconfite. Effectivement, ça a bien changé depuis la dernière fois que je t'ai vu vomir sur mon comptoir. Mais c'est étrangement désert, dit Bill, en balayant son regard dans la grande salle où moins d'une dizaine de personnes sirotent leur verre à table sans faire de bruit. Quelques habitués, c'est tout. À ce moment-là, un petit bossu d'une soixantaine d'années entre. Il porte des habits sales et déchirés, accompagné d'une odeur répugnante. Sans rien dire, Il se dirige au fond du bar en jetant un regard pervers à Bill et en lançant à Big Joe.
« Serre-moi ta piste de schtroumpf !»
avant d'aller s'asseoir à une table dans un coin. Big Joe s'exécute. Il prend un verre derrière le comptoir et le pose devant lui avant d'aller chercher une bouteille bleue dans le frigo et d'y verser son contenu. Il la porte au bossu qui lui balance une poignée de pièces. Le barman revient derrière son comptoir pour reprendre sa discussion.
« C'est quoi ce truc bleu ?» lui demande Bill d'un drôle d'air. « À vrai dire, je n'en sais rien. C'est pas cher et ça saoule. Oui, ben moi, je vais plutôt prendre un bon scotch. Le plus vieux et le plus cher que tu aies. J'ai ma nouvelle vie à fêter. »
À ces mots, le visage de Big Joe blêmit soudainement. Il repose le verre qu'il était en train d'essuyer et approche sa tête de Bill.
Tu n'es pas au courant ?
Mais au courant de quoi ?
Lui répond Bill, interloqué.
Mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de whisky ici. Plus de whisky ? C'est une blague, Big Joe. Et pourquoi il n'y aurait plus de whisky ? Vous regardez jamais la télé en tôle ? Il faudrait déjà qu'il y en ait une. Je vois.
On fait le barman en reprenant son verre et son torchon, en restant muet un long moment.
Big Joe, tu vois quoi ? C'est quoi ces petites cachotteries que tu me fais ? Il n'y a plus de whisky, plus de clients, de la pisse bleue à je ne sais quoi. Ton bar est pourri, ça pue la mort. On dirait la prison, mon pote. Explique-moi, bordel !
S'impatiente Bill.
Je vais fermer, Bill.
Se contente de dire Big Joe d'un ton monotone.
Et il est à peine 14 heures, tu vas pas fermer. Mais je vais fermer à la fin du mois. Je mets les clés sous la porte,
dit-il en reposant son verre sec.
Ça fait 8 ans qu'il n'y a plus d'alcool à Clemson Town. Enfin, plus d'alcool buvable, je voulais dire. 8 ans ? Ouais, ça fait aussi 8 ans que plus personne n'est parti d'ici et que personne n'est venu d'une autre ville. Décision du gouvernement. La ville a été décrétée trop dangereuse et le taux de criminalité trop élevé. Mais ils ont bloqué les routes et ont construit un gigantesque mur autour de Clemson. Le maire de la ville a été assassiné la semaine d'après. Et c'est désormais Dove Brown qui dirige cette ville. Le catcheur ?
S'étonne Bill, la mine déconfite.
Ouais, le catcheur, mais surtout le plus riche et le plus puissant homme à Crimson Town. C'est lui qui détient les stocks des dernières denrées. Et comme on ne produit pas nous-mêmes notre whisky, on se contente de ce truc bleu. C'est le seul alcool qui vient d'ici. Mais... Le Dick Juice, il est fait à Crimson, non ? Non, en fait, il est distillé à Venus Cielé. Putain de bordel ! Pour la bouffe, on a tout ce qu'il faut. Avec les champs qui entourent la ville, on ne manque pas, mais les prix sont élevés car ils appartiennent tous à Duff. Il a tout racheté avant la fermeture de la ville. Mais pour ce qui est de l'alcool, beaucoup sont prêts à tuer pour une bonne bouteille de scotch. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Les hommes de Duff sèment la terreur et cambriolent toutes les maisons pour vider les caves. Une bouteille de Dick Juice se vend désormais à prix d'or. Alors du bon, je n'imagine même pas. C'est devenu un marché très lucratif, réservé à une certaine clientèle. Pas ce style, dit-il,
en montrant le bossu s'avalant son verre cul sec, en faisant la grimace, avant de faire voler quelques morceaux visqueux du fond de sa gorge dans l'élan une toux grasse et bruyante.
C'est de la folie. On est dans une sorte de ghetto, en fait.
Mais c'est un peu ça.
Bill se retourne pour observer la mine triste et résignée des clients de la taverne de l'enfer. Puis il redirige son regard vers Big Joe.
Mais je peux goûter ta saloperie? Ça a un nom, ce truc-là?
Mais ça a plusieurs noms. Pisse bleue, pisse de schtroumpf, liqueur bleue. Mais son vrai nom, c'est le Blue Blader. Mais on peut dire que ça apporte plutôt bien son nom. Tu verras ça quand tu iras pisser.
Blue Blader, fait Bill en fixant l'étiquette de la bouteille que Big Joe pose devant lui.
Mais allons-y pour un verre de Blue Blader. Tu m'accompagnes ? Mais tu m'en veux pas si je décline la proposition. C'est dégueulasse à ce point, mais ça me donne des maux d'estomac. Ok, serre-moi et remplis un autre verre.
crois que le bossu a terminé le sien. Le barman remplit le verre de la liqueur bleue, un peu gluante, et se dirige ensuite vers la table du bossu, la bouteille à la main. Bill lève son verre et l'approche de ses yeux pour observer la texture et la couleur de son contenu, puis le baisse jusqu'à son nez pour sentir l'odeur du liquide qui lui rappelle celle qui sort du rectum des nouveaux détenus de la prison de Crimson après leur premier repas. Il porte malgré tout le verre à ses lèvres et le vide cul sec avant de le claquer sur le comptoir en faisant un rictus de dégoût. « C'est jamais ce truc !» dit tout haut Bill en se retenant de ne pas vomir par terre. « On s'y habitue. Bah ben, pas moi. Je vais pas m'habituer à boire cette merde alors que je rêve depuis 15 ans de m'enfiler une bonne bouteille de whisky. Bon, je me casse. Je connais un endroit où je pourrais satisfaire cette envie. Je te dois combien ? C'est offert. Tu connais un endroit où boire du whisky ? Ouais, ma réserve perso. Mais je suis quasiment sûr que ce minable de Duff n'a pas encore mis la main dessus. » Bill sort du bar, en rogne, et prend la direction du centre-ville d'un pas décidé. Big Joe se réfugie dans sa réserve et prend son téléphone. Dès la première sonnerie, une voix rauque décroche.
« C'est qui ? Big Joe, le barman. J'ai une info qui devrait vous intéresser. Quoi ? C'est Bill. Bill, le tonard. Il est sorti et je crois savoir qu'il a quelques bouteilles de whisky planquées quelque part. »
Chapitre 2. Putain, j'arrive pas à croire qu'on va jouer à Crimson Town, s'exclame Ginny. Ouais, moi non plus. Apparemment, ça fait 2 ans qu'aucun groupe de l'extérieur n'a pu s'y produire, fait Randy, tout excité. Ça a été chaud d'avoir les autorisations. Ça va nous faire une pub de dingue. On va filmer le concert et le vendre en DVD. Les écervelés live à Crimson Town, se délecte lecteur. Jimmy, Randy et Lecter forment un trio de punk rock sobrement nommé les Esservelés. Ils ne sont pas très connus, mais misent sur un concert dans la sulfureuse ville interdite pour faire décoller leur groupe. Randy, le guitariste, a réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle pour rentrer à Crimson Town pour faire un concert dans la seule salle de spectacle de la ville, le Monster Club. Une salle d'une capacité de 500 places, prête à s'écrouler, bouffée par les termites. Habituellement, seuls les groupes locaux s'y produisent, souvent des groupes de métal et de rockabilly. Des concerts dans le Monster Club finissent généralement par une bagarre générale à grands coups de bouteilles de Blue Blader sur le crâne. Mais de temps en temps, un groupe de l'extérieur arrive à y jouer. Mais les autorisations sont délivrées au compte-gouttes, et les musiciens n'en sortent pas indemnes. L'accueil est rugueux, pas question pour le public de voir repartir les icos autrement qu'à poil. C'est ce qu'ignorent les écervelés, qui voient plutôt l'événement comme la chance de leur vie. Tous les membres du groupe se font l'idée que les ventes de leur album s'envoleront quand les gens sauront qu'ils reviennent d'un concert à Crimson Town. Ce qui, au passage, pour un groupe de punk n'est pas totalement faux. Encore faut-il qu'ils en reviennent vivants. L'excitation est au maximum, dans la camionnette aménagée de Lecter, le plus taré des trois, batteur à l'occasion, et le seul à porter la crête. Le nom du groupe est inscrit en graffiti sur le côté, accompagné d'un logo qui représente le manche d'une guitare traversant un cerveau. Ils arrivent au point de contrôle avant d'entrer dans la ville. Un grand garde habillé tout en noir, très baraqué et pas souriant pour un sou, il s'approche d'eux, un colt à la main, canon vers le sol. Mais pas pour longtemps. Lecter baisse la vitre en affichant un sourire niais. Le garde colle immédiatement le canon de son arme entre les deux yeux du jeune musicien et hurle avec une voix autoritaire. « Demi-tour, vous n'avez rien à foutre ici !»« Doucement, doucement !» panique Lecter. « On a une autorisation. On est un groupe de musique et on doit jouer au Monster Club !» Le batteur lui montre un bout de papier, la main tremblante, le visage dégoulinant de sueur. Le garde lui arrache et l'inspecte dans les moindres détails avant de lui dire d'un ton plus calme, sans être pour autant agréable,
« Mais attendez-moi là, je reviens !»
Il rejoint son collègue, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Après une courte discussion et un hochement de tête, le garde revient vers la camionnette en inspectant cette dernière. Il ressort son Colt et le colle à nouveau sur le front de l'acteur.
« Vous avez du whisky ?»«
Du whisky ?»«
T'es sourd ?»
lui dit le garde en haussant le ton et en appuyant le canon un peu plus fort sur le front du batteur.
« Oui, on a une bouteille, pourquoi ?»«
Donne ! C'est interdit à Crimson !»
L'acteur se retourne vers Randy, qui lui tend une bouteille de Ballantine's, à moitié entamée. Le conducteur la fait passer au garde avec un regard dubitatif.
« Tenez !» lui dit timidement l'acteur.
« Rien d'autre ?»«
D'autres alcools ?»«
D'autres whisky, du con !»
L'acteur se retourne à nouveau vers ses deux amis qui lui répondent en faisant « non » de la tête.
« Non, rien d'autre. »
« Ok, il y a quelques trucs à savoir après qu'on vous aura laissé passer. »«
Quoi donc ?»«
Premièrement, vous avez intérêt de m'avoir tout donné car vous allez vous faire dépouiller en rentrant. Et s'ils découvrent ne serait-ce qu'une goutte de whisky dans votre camionnette pourrie, ça va aller mal pour vous. »«
Ah bon ?» fait l'acteur en fronçant les sourcils.
« Ta gueule !»
Deuxièmement, votre autorisation ne dure que 24 heures. Ça veut dire que demain, à partir de cette heure-ci, on ne vous ouvrira plus. Troisièmement, en cas d'urgence,
démerdez-vous.
Le portail s'ouvre lentement et en fait apparaître un deuxième, environ 5 mètres plus loin.
Avancez jusqu'au deuxième portail et bonne chance,
leur dit le garde avant de rejoindre son collègue. L'acteur démarre le véhicule et avance lentement jusqu'au deuxième grand portail gris métallique. Le premier se referme lentement derrière eux. L'ambiance dans la camionnette s'est nettement refroidie. Les trois musiciens expriment une grande angoisse. Le regard fixe la boule au ventre. Jimmy, le bassiste, brise le silence.
Putain, il m'a fait flipper ce con.
Ouais,
imagine si tu avais le canon de son flingue pointé sur ton front. J'ai failli faire dans mon froc.
Mais j'ai filmé en douce. Ça va faire un putain de bonus pour le DVD,
glisse Randy avec une petite pointe d'enthousiasme.
Ouais, enfin, si on revient vivant, ironise Jimmy. Tu l'as entendu ? S'il y a une couille, on est tout seul. Ça y est, ça s'ouvre.
Le grand portail s'ouvre lentement, laissant apparaître une dizaine d'individus ressemblant plus à des gremlins qu'à des humains. Leurs fringues sont crades et déchirées. Leur peau suinte une sueur jaunâtre. Leur regard exprime à la fois de l'avidité et de l'agressivité. Certains semblent prêts à bondir, ce qui glace le sang des trois icos. L'acteur reste paralysé au volant, les ongles plantés dans la mousse du volant. Les individus s'approchent dans une démarche désarticulée jusqu'à ce qu'une grosse voix retentisse dans les haut-parleurs de chaque côté du portail.
« Stop ! On ne bouge pas !»
L'un des hommes ne fait pas attention à l'alerte et continue d'avancer, mais dans la seconde qui suit, le son d'un tir de fusil d'assaut précède l'explosion de son crâne. La tête de l'homme explose comme une pastèque et laisse échapper un flot de sang et quelques morceaux de cervelle avant que le corps tout entier ne s'effondre à terre, à quelques centimètres du pare-choc de la camionnette, sous les yeux effarés des trois punks. La grosse voix retentit à nouveau dans les haut-parleurs.
La camionnette ! On avance et on se dépêche ! Bienvenue en enfer !
L'acteur appuie à contre-cœur sur l'accélérateur, les veines prêtes à exploser sous la pression de son sang qui vient jaillir à toute vitesse à l'intérieur. Ils entrent sur le territoire de la ville de Crimson Town, tandis que le portail se referme lentement derrière eux. Chapitre 3. Les combats de catch à Crimson Town n'ont rien à voir avec ceux qui se déroulent ailleurs. Les catcheurs ne font pas semblant et les duels s'apparentent plus à un combat de gladiateurs qu'à un spectacle chorégraphié. Depuis que Crimson est isolé, c'est devenu un vrai carnage. Ça reste le sport le plus apprécié et le plus suivi dans la ville et bien évidemment, la salle où se déroulent les affrontements appartient à Duff Brown,
l'ancienne gloire du catch. Il participe encore à des combats de temps à autre, mais jamais contre des adversaires affûtés, ce qui lui permet de faire oublier au fil du temps sa terrible déconvenue contre un jeune videur alcoolisé il y a de ça plus de 15 ans. Tous les après-midi, le public s'entasse dans la salle pour assister au match du jour. C'est un événement essentiel dans la vie des habitants de Crimson Town. Cela permet d'oublier les problèmes liés à l'isolement. Aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque l'idole des spectateurs va livrer son dernier combat avant de tirer sa révérence. Pour son dernier match, Golgotha, ou l'empaleur du diable, comme ses admirateurs le surnomment, va affronter celui qui est pressenti pour prendre sa place dans le cœur du public, l'intrépide Seth. Moins costaud que son adversaire, mais très souple et rapide. Dans le vestiaire, la tension monte. Golgotha approche de la quarantaine et il sait qu'il est sur la pente descendante, contrairement à son adversaire, plus jeune et plus frais, qui a récemment envoyé 3 combattants à la morgue. Mais il sait aussi que les gens vont se souvenir de ce dernier match. C'est pour cela qu'il s'est entraîné 2 fois plus, pour finir en beauté. S'il gagne, il aura la possibilité de quitter la ville. C'est un privilège qu'il n'est réservé qu'aux anciennes gloires du catch de Crimson Town, qui terminent leur carrière avec le titre. Son entraîneur, Alfred Ciccoli, un ex-champion de boxe italien, est lui aussi inquiet. Il connaît son gars, ses forces et ses faiblesses. Il a bien étudié son adversaire du jour, Seth, qui possède une redoutable technique de combat rapide et imprévisible. Il observe son protégé pendant que ce dernier reste assis, de marbre, plongé dans son match à mâchouiller son chewing-gum.
Il va falloir l'assommer dès le début, jouer sur ta force, lui faire peur. S'il prend confiance, il va t'attaquer, et là ça va être compliqué. Mais il est rapide, trop rapide pour toi, lui conseille Alfred. Tu entends ? « Il me faut du whisky !»
lui répond Golgotha droit dans les yeux avec une voix chancelante.
« Putain, le combat est dans 15 minutes, boy. Où tu veux que j'en trouve ?»« C'est ma seule chance. Et tu le sais, Seth, c'est un tueur !»
Golgotha a les yeux exorbités, gagnés par la peur. Alfred plonge sa tête dans ses mains et reste dans cette position une dizaine de secondes avant de finir par découvrir son visage.
« T'as peut-être raison !» Mais ça va être difficile à trouver. Et même si j'en trouve, les gens vont s'en rendre compte. Le public veut du spectacle. Tu sais que c'est différent avec du whisky. Juste un verre me suffit pour le battre. Je sais,
fait Alfred résigné. Brusquement, la porte du vestiaire s'ouvre. Et un grand homme imposant rentre, accompagné d'une superbe blonde pulpeuse d'environ 1m80. Le mec fait plus de 2m de haut. Les cheveux longs et noirs, légèrement ondulés, il porte des lunettes de soleil en forme d'étoiles dorées. Golgotha et Alfred savent très bien de qui il s'agit.
Golgotha ! Bonjour, Monsieur Brown,
répond le catcheur accompagné d'un léger signe de tête.
Alors, prêt pour ton dernier combat ?
Demande Duff, faussement amical.
Je reviens du vestiaire de ton adversaire. Il tient la forme, le bonhomme. « Aussi, ne vous inquiétez pas. »« Mais je ne m'inquiète pas, »
lui dit Duff d'un ton mystérieux.
« Je sais que tu peux le battre, n'est-ce pas ?»« Je ne partirai pas sans lui avoir déglingué sa tronche. »« Tant mieux, j'aime cet esprit. »
Duff prend une pause et jette un coup d'œil au coach italien avant de reprendre.
« Toutefois, je ne suis un peu renseigné sur les paris et tu es donné perdant. »« Ne te sens pas offensé. » Ils ont juste envie d'un peu de renouveau. Il faut dire que le gars en face a tout pour plaire. J'ai donc une proposition à te faire. Laquelle ?
Demande Golgotha, soudainement intéressé par les propos de Duff. Ce dernier ouvre sa veste, qui laisse entrevoir le goulot d'une bouteille de Dick Jones. Les yeux de Golgotha sont absorbés par l'objet. Duff laisse apparaître un grand sourire sur ses lèvres avant d'en venir au fait.
« Je vois dans ton regard quelque chose que j'avais envie de voir, » fait-il en sortant la bouteille. « Voilà ma proposition. Je te donne cette bouteille, et tu sais comme moi quel effet elle peut avoir sur un homme comme toi. En échange, tu vas devoir renoncer à quitter la ville après le combat et accepter de rejoindre mon équipe. Tu as ta place, et j'ai besoin d'hommes comme toi. Qu'est-ce que t'en dis ?»
Ben, c'est que...
Hésite, Golgotha. Duff s'approche du catcheur et colle son visage juste en face du sien avant de prendre une voix plus sombre et sérieuse. Il va te démolir. C'est un tueur, ce gars-là. Il va te défoncer la gueule tellement fort que tu n'auras plus jamais l'occasion de boire une goutte de quoi que ce soit. Tu n'as pas trop de choix, à vrai dire. Soit tu crèves comme un chien, soit tu me rejoins. Alfred se retient d'intervenir. Il est conscient que Duff tient Golgotha par les couilles. Et comme il ne veut pas voir son poulain y passer cet après-midi sur le ring, il fait un signe de tête à son protégé pour qu'il accepte le deal.
« Ok, Duff, »
dit Golgotha sans enthousiasme.
« Tu fais le bon choix, mon grand, mais je parle en connaissance de cause. La fin de ma carrière aurait pu être un fiasco si je n'avais pas ma petite potion magique. »
Il lui tend la bouteille pleine de whisky. Golgotha la dévisse délicatement et la porte à son nez et en apprécie l'odeur, les yeux fermés, dégustant le parfum boisé du liquide.
« Le parfum de la puissance !»
s'exclame Duff, ravi de voir le catcheur apprécier le cadeau. Après une longue minute, l'empaleur du diable finit par porter le goulot à ses lèvres, mais en déguste une bonne gorgée, toujours les yeux fermés. À peine une dizaine de secondes suivant cet instant, il rouvre les yeux, devenu rouge sang. Son faciès a totalement changé, il est rempli d'agressivité. Les veines de son corps ressortent sous la peau et ses mains se mettent à trembler sous le regard apeuré de la jeune femme qui se blottit contre Duff. Ce dernier se délecte du spectacle auquel il est en train d'assister. Le grand catcheur se lève, jette un regard à son entraîneur et lâche avec une voix sombre et rocailleuse
« Allons éclater la gueule de cette petite merde !»
Chapitre 6. La foule est en délire et affiche des pancartes pour soutenir leur idole. Cet après-midi, on peut compter autant de soutien à Golgotha qu'à Seth, et c'est ce dernier qui rentre en premier. La lumière s'éteint, et l'intro de Thunderstruck d'ACDC retentit dans les enceintes. Le catcheur apparaît dans un coin de la salle, la capuche sur la tête à la manière des boxeurs. Il s'avance d'un pas lent et régulier, sans exprimer la moindre perturbation dans sa concentration. À mi-parcours, le refrain de la chanson démarre, et est accompagné d'un jet de flamme à chaque coin du ring. Seth enlève sa capuche et laisse apparaître son visage d'ange et son regard hypnotique, amplifié par ses pupilles bleues électriques. Le gars n'est pas aussi grand et musclé que son adversaire du jour, mais possède un certain charisme qui rend folle la gente féminine. Il monte sur le ring tandis que la foule oscille entre applaudissements et huées, ce qui semble galvaniser le catcheur. La musique s'arrête, la lumière s'éteint à nouveau. Cette fois-ci, c'est l'introduction de Wild Child, de Wasp, W.A.S.P., qui retentit dans les enceintes et c'est au tour de Golgotha d'apparaître dans un autre coin de la salle. L'accueil est quasiment le même que celui de son adversaire. Les applaudissements des admirateurs répondent aux huées des fans de Seth. L'empaleur du diable est complètement en transe et avance tellement rapidement vers le ring qu'il n'a pas attendu d'être au premier refrain pour se retrouver déjà en face de Seth, toujours imperturbable. La musique s'arrête et un petit chauve habillé d'un smoking orange pétant monte à son tour sur scène avec un micro.
Mesdames et messieurs, bienvenue au match qui oppose le tenant du titre et invaincu cette année, qui nous fait l'honneur de monter une dernière fois sur le ring avant de tirer sa révérence. J'ai nommé l'empaleur du diable, Golgotha!
Applaudissements et huées du public.
Face à celui qui n'a peur de rien, une gueule d'ange, mais un caractère de démon, certainement le plus prometteur de la nouvelle génération de catcheurs à Greensound Town, j'ai nommé l'ange des ténèbres, Seth.
Applaudissements et huées du public.
Les deux s'affrontent pour le titre de meilleur catcheur de l'année. Titre que Golgotha ne lâche plus depuis 3 ans déjà. Mais il a cette fois-ci un coriace adversaire. Il sera remis par celui que vous connaissez tous, la légende du catch, Dave Brown.
Applaudissements et huées du public.
Êtes-vous prêts pour le massacre? Messieurs, c'est à vous!
Hurle le chauve avant de descendre du ring. Golgotha n'attend pas et fonce sur son adversaire, légèrement surpris par l'attaque rapide du tenant du titre. Il l'attrape par le cou et le soulève. Les pieds de Seth décollent du ring. Il porte ses mains à son cou pour le faire lâcher prise en vain. Golgotha le balance comme un chiffon à l'autre bout contre le coin. Seth tente de reprendre rapidement ses esprits mais est à nouveau attaqué. Cette fois-ci, l'empaleur lui tire les cheveux et le traîne au milieu avant de lui sauter dessus, le genou en avant qui vient s'écraser contre le thorax de Seth, brisant quelques côtes sur le cou. Ce dernier reste à terre, le souffle coupé, tandis que le vieux catcheur harangue le public. Il finit par se retourner brusquement et fonce sur Seth pour le plaquer comme un rugbyman. Cette fois-ci, ce dernier esquive et se réfugie dans les cordes. Mais pas pour longtemps. Le futur retraité du catch semble avoir retrouvé la vivacité et la force de sa jeunesse. Il provoque son adversaire, qui reste de marbre, toujours proche du bord. Les fans de Golgotha crient plus fort et son nom fait vibrer la salle jusqu'à faire trembler les murs. Seth tente une attaque rapide, comme il sait très bien le faire. Il s'élance et contourne la montagne de muscles, mais ce dernier l'arrête net dans son élan et lui assène un grand coup dans le dos. Le jeune catcheur est à nouveau à terre. Il vient le relever brutalement en lui serrant le cou. Il le regarde avec ses yeux injectés de sang qui fait passer un frisson dans le corps de Seth. Il lève son poing très haut, attend un instant que le public hurle son nom, puis d'un coup sec vient frapper le haut de la tête de son adversaire, provoquant le son du craquement des os du crâne. Golgotha lâche son étreinte. Le corps de Seth s'effondre au sol comme un vulgaire sac de sable. Le chauve rentre sur le ring et s'approche du corps de Seth pour vérifier son pouls. Il se retourne et fait signe à l'entraîneur de ce dernier que le catcheur a trouvé la mort sous le regard satisfait du propriétaire de la salle. L'un des hommes de Dove Brown vient se placer derrière lui et lui chuchote dans l'oreille.
J'ai une bonne nouvelle pour vous, boss. Je t'écoute.
Fait d'œuf, sans quitter des yeux le ring où Golgotha harangue la foule et exprime sa joie d'une manière assez sauvage sous les cris de ses admirateurs.
Bill est sorti de prison et il est passé boire un verre chez Big Joe.
D'œuf se retourne en ôtant ses lunettes. Il s'exclame d'une façon quasi hystérique.
Bill est en ville?
Oui, boss.
Et cerise sur le gâteau, il aura une réserve de whisky.
Le propriétaire des lieux se retourne à nouveau vers le ring, que l'empaleur du diable s'apprête à quitter, accompagné de la musique utilisée pour faire son entrée, et cette fois-ci en laissant le temps de la chanson s'écouler pendant la sortie. Duff prend un instant avant de dire d'un ton machiavélique, en observant Golgotha,
« Je pense que Bill va être ravi de rencontrer ma nouvelle recrue. »
Chapitre 7. Bill se penche pour prendre la boîte par terre, puis la glisse sur le sol jusqu'à Darrell. Ce dernier l'intercepte du pied et se met accroupi, le flingue toujours pointé sur son ancien ami. Il ouvre la boîte métallique, ses yeux se mettent à pétiller et sa langue vient lécher sa lèvre supérieure avant de lâcher un
« Magnifique ! Vous êtes tous devenus tarés avec ça, ce n'est que du whisky !»
accuse Bill.
C'est bien plus que ça, crois-moi. Explique-moi alors pourquoi tu es prêt à me tuer pour 4 litres de scotch. Tu me dois bien ça.
Les yeux de Darrell sont hypnotisés par le contenu de la boîte. Sans adresser un regard à son ancien ami, il entame quelques explications.
Des médecins ont fait des recherches pour expliquer pourquoi Crimson avait un taux de criminalité et de violence bien au-dessus de la moyenne. Après quelques mois, ils ont repéré que le whisky faisait monter en nous une excitation anormale. L'alcool en général, tu veux dire ?
L'interrompt Bill, pas convaincu.
Non, pas l'alcool, le whisky, seulement le whisky,
lui dit Darrell, les yeux écarquillés comme s'il venait de voir la Vierge.
Le whisky rend les habitants de Crimson complètement tarés et incontrôlables, mais surtout, ça décuple nos forces. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était ton cas.
Oui, c'est pas faux.
fait Lex Tollard, en hochant la tête.
Mais alors, pourquoi seulement les habitants de Crimson Town ? J'y viens. Les recherches ont continué dans les villes aux alentours. Ils n'avaient pas les mêmes résultats, alors ils ont essayé de trouver une explication sur la raison pour laquelle ça n'arrive qu'ici. Hé ! S'impatiente Bill. Nous ne sommes pas totalement humains. C'est de la connerie. Ce n'est pas une histoire d'humains ou pas. La réalité, c'est que vous êtes tous devenus barges, hein, point c'est tout. Non, nous avons quasiment tout d'identique avec les humains. L'apparence. Ouais, pas pour tous. L'intelligence. Pas pour tous. La sociabilité. Pas pour tous. Les émotions. Pas pour tous. Je te stoppe tout de suite, tu me saoules avec ta liste à la con. Viens-en au fait. Qu'est-ce qu'on aurait de différent ? L'instinct. L'instinct, fait Bill en fronçant les sourcils. Oui, nous avons l'instinct bestial. Tu veux dire qu'on est des animaux ? C'est un peu ça. Mais c'est quoi le rapport avec le whisky ? Les médecins ont repéré une anomalie dans notre ADN qui n'est activée que lorsqu'on ingurgite du whisky. On devient des animaux en buvant du scotch, ricane Bill. Ouais, fait Darrell, sans retenir le sarcasme de son ancien ami. Il continue toujours en ayant l'air d'être sur un nuage. Le whisky vient altérer une partie de notre ADN, et c'est comme si on se transformait en bête. Notre instinct devient primitif, ce qui nous pousse à devenir violents, car le monde dans lequel nous vivons est considéré comme dangereux pour notre cerveau reptilien. Un verre de whisky et tout devient un danger autour de nous, surtout ce à quoi nous devons affronter chaque jour. Si tu détestes quelqu'un et que tu bois un verre de whisky, tu vas avoir l'envie irrésistible de lui éclater la gueule. Bon, ça me paraît fou ton histoire, mais j'ai une question. Tout le monde n'est pas né à Crimson. Beaucoup de gens viennent des villes aux alentours. Pourquoi ils seraient aussi touchés par ton anomalie, comme tu dis ? Mais tout le monde n'est pas touché. Même notre ADN change avec le temps. C'est pourquoi l'homme a cette apparence aujourd'hui. On ne serait encore qu'une bactérie, sinon. Les gens qui vivent à Crimson Town depuis un certain temps ont leur ADN qui est modifié avec l'environnement et sont malheureusement touchés à leur tour par ce fléau. C'est pour ça qu'on est coupé du monde. Officieusement, oui. Officiellement, pas tout à fait. Ouais, Big Joe m'en a parlé. Tout le monde est au courant ? Une bonne partie. Donc tout le monde est à la recherche de ce liquide pour devenir plus fort. Oui, mais pas que. L'instinct animal est beaucoup plus développé que celui des humains. Il y a tout un tas d'avantages à être dans cet état, et puis c'est devenu un sacré business. Je veux bien me croire. Bon, maintenant, tu fais quoi ? Tu vas me buter et t'enfiler mon whisky pour devenir le roi de la jungle ? Je suis désolé, mec ! Fait Darrell en prenant l'air ennuyé. C'est vrai que je suis content de te voir, mais les temps sont durs. Ça vaut une fortune, ce qu'il y a dans ta boîte. Ça fait 3 ans que je fais les poubelles, j'ai pas le choix. T'as rien bu, et pourtant tu as l'instinct d'un enculé. Tu l'expliques comment ça ? Lui envoie Bill d'un ton agressif. Si c'est pas moi, ce sera un autre. Tu vas vite te rendre compte que Crimson, c'est une gigantesque prison où les gardiens sont aussi les prisonniers. Tu viens me dire ça à moi, qui ai dû survivre dans un trou à rats pendant 15 longues années ? Pauvre con ! Vas-y, bute-moi, ça n'a plus d'importance. Si c'est pour vivre dans un endroit pire que la tôle, mieux vaut en finir. Allez, appuie sur la gâchette, sale pute ! Darrell s'apprête à tirer, mais les souvenirs où les deux hommes étaient potes et faisaient les 400 coups ensemble lui font hésiter sur la décision fatale. Bill s'approche dangereusement de lui, le regard fixe, le torse bombé. « Putain, ne t'approche pas, il y a peut-être une solution !» bégaye Darrell. « Que dalle, je ne peux plus avoir confiance en toi, tu n'es qu'un lâche !» Son hésitation aura eu raison de lui. Dans un geste furtif, Bill saisit le canon du revolver et lui arrache des mains avant de lui envoyer un direct du droit en plein dans le nez. Darrell n'y résiste pas et se couche l'instant d'après, le visage en sang. Bill récupère l'arme, le glisse dans son jeans, puis dépouille son agresseur. Il trouve dans ses poches un peu de pognon et un ticket d'un concert qui a lieu ce soir au Monster Club. Il lui vole également son t-shirt et emballe les bouteilles dedans pour éviter qu'elles ne s'entrechoquent dans son sac. Au moment de mettre la quatrième et dernière, il s'arrête soudainement et finit par la ressortir. Il s'assied sur le sol et dévisse le bouchon. Il porte le goulot à ses lèvres et ferme les yeux pour savourer le flot de liquide ambré qui coule au fond de sa gorge. Son œsophage y redécouvre cette chaleur qui a bercé sa jeunesse. Les épices ressortent en bouche après avoir fait glisser le liquide jusqu'à son estomac. Il se sent désormais plus libre. De vieux souvenirs refont surface.
le bois usé des comptoirs, la laine fétide des copains de boisson, les bagarres de rue, les petits coups d'un soir avec des jeunes filles saoules et hystériques. Après quelques minutes, le temps où le tiers de la bouteille a terminé au fond de son gosier, il décide de quitter les lieux et d'aller voir quelqu'un en qui il a une confiance aveugle. Chapitre 8. Randy est blanc de panique et lance un regard terrorisé à Jimmy qui ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Lecter tente maladroitement de faire diversion.
Ouais, on est en train de s'engueuler à cause de la bouteille de whisky qu'on a dû laisser aux gardes à l'entrée de la ville. J'avais payé une blinde,
fait-il en feignant d'être en grogne.
Ouais, je comprends, compatit le biker. Ça vaut de l'or ici. Tu aurais pu te faire un paquet de pognon.
« Vous pouvez m'aider à sortir mon ampli ?» coupe Randy, soulagé intérieurement que le gros motard ait cru au bobard.
« Ouais, pas de problème. C'est quoi ton ampli ?»«
Un Marshall, une édition limitée avec un super son. Le problème, c'est qu'il pèse une tonne. »«
Je m'en occupe !» lui dit le biker.
Le lecteur hésite à soulever à nouveau la grosse caisse devant le gars et attend que ce dernier rentre dans la salle avec l'ampli de Randy. Le guitariste lui jette un regard noir en passant à côté de lui. Jimmy semble s'en foutre royalement, comme à son habitude, et suit le cortège, sa basse noire à la main. Lecter soulève délicatement la grosse caisse et se dirige à son tour vers la salle. Une fois à l'intérieur, il la pose délicatement sur le sol, à côté de l'ampli Marshall. Il vérifie que personne ne le voit et introduit son bras dans la grosse caisse pour récupérer sa bouteille de Ballantines, pour la glisser dans la poche intérieure de son blouson. Il ressort et croise ses deux potes, accompagnés du biker, qui ramène le reste du matériel dans la salle. Il se dirige vers l'avant de la camionnette, côté conducteur, retire son blouson et le planque derrière le siège avant de retourner à l'arrière du camion, décharger le reste de sa batterie. Le biker ressort et s'approche de Lecter.
« Il va falloir bouger votre camionnette après. Il faut laisser de la place pour le groupe de première partie. »«
Il y a une première partie ?» fait Lecter étonné.
« Mais on n'était pas au courant ?» Normal, ils viennent d'être programmés à l'instant.
Ah bon? Mais c'est qui ces gars-là? Un groupe de punk d'ici?
Non, pas vraiment. C'est le groupe de Lady Di.
Lady Di?
Ouais, c'est une sacrée nana, tu verras. Le style est difficile à cerner, mais visuellement, ça vaut le coup.
Mais pourquoi elle vient au dernier moment?
C'est sa façon de faire. Elle prévient au dernier moment quand elle est OK pour jouer, et le gérant du Monster Club ne refuse jamais sa venue. Mais ça fait vendre des tickets. Mais il y en a même qui achètent leurs billets pour tous les concerts, juste au cas où elle vienne y faire son show.
Ouais, je vois, ça va être difficile de passer après elle, si je comprends bien, lui dit Lecter, peu enjoué par la nouvelle.
Bah c'est sûr, faut assurer, mais l'avantage, c'est que la salle sera pleine. Vous n'êtes pas très connu ici, mieux vaut jouer devant une salle pleine avec Lady Di que devant 10 pélos bourrés et à moitié endormis.
Ouais, c'est sûr, mais je pensais que même sans elle, on allait faire salle comble. J'ai entendu dire qu'ici, les concerts punk, c'était de la folie.
Oh, plus autant qu'avant, fait le biker,
avec de la nostalgie dans sa voix.
Ah merde. Ouais, depuis qu'on ne sert que de la piste de Schtroumpf, c'est moins endiablé ici.
De la piste de Schtroumpf?
Ouais, tu vas vite comprendre. On va aller s'en jeter un verre. Suis-moi.
Attends, faut que je déplace la camionnette, lui rappelle Lecter.
Bah oui, bah rejoignez-moi tous les trois au bar de la salle, c'est devant.
Le batteur déplace sa camionnette un peu plus loin. Quand il ressort, il aperçoit ses deux potes en train de l'attendre à côté de la salle. Il les rejoint. Randy fait toujours la gueule. Jimmy, le sourire aux lèvres, lui annonce fièrement.
« Apparemment, c'est complet ce soir !»« Ouais, on m'a dit. Mais t'emballe pas, c'est pas pour nous. Il y a une pétasse qui nous vole la vedette. »« Bah bon, bah on n'est pas les seuls à jouer !»
fait remarquer Randy encore plus en rogne.
Bah non, une certaine Lady Di vient d'être programmée. C'est la star dans le coin. Tout le monde se bouscule pour venir la voir. Mais c'est pas du punk. Lady Di, j'adore le nom. Une femme en aille pour éloigner les vampires, s'amuse Jimmy. Non, die comme mourir en anglais, le reprend Lecter. On a à deux doigts de se faire massacrer pour un concert où tout le monde n'en aura rien à foutre de notre gueule. C'est quoi cette arnaque? S'énerve Randy. Du calme. D'après les gars, le punk, c'est plus trop ça ici. Sans elle, on aurait peut-être joué devant une salle vide. Bon, faut aller rejoindre les bikers, annonce Lecter.
Au bar du Monster Club, les trois barbus les attendent. Derrière le comptoir, un vieux type bizarre, torse nu, qui laisse apparaître un corps sec à la Iggy Pop, lance un regard froid au groupe lorsqu'il les aperçoit entrer. Lloyd se retourne et leur fait signe d'approcher.
« Venez les gars, je te présente les cervelés, » dit-il au mec bizarre. « Bienvenue au Monster Club, » annonce ce dernier. « Moi, c'est Burt, je suis le gérant des lieux. S'il y a besoin de quoi que ce soit, c'est à moi qu'il faut le demander. »
Nous, on est les cervelés, se présente Lecter. Voici Randy, le guitariste, Jimmy, le bassiste, chanteur, et moi, je m'appelle Lecter et je suis batteur. Le coupe Burt, fier de son coup. Mais c'est ça, répond Lecter, sans savoir comment réagir à cette remarque. À ce moment-là, un quatrième biker les rejoint, la mine inquiète. Il se dirige droit vers Lloyd, sans faire attention aux trois icônes.
On a un problème, dit-il avec une voix légèrement essoufflée. « Quoi ? Les Chicanos seront là ce soir ? Putain de merde !»
s'énerve Lloyd.
« Ils sont courants pour le concert de Lady Di !» continue le biker.
« C'est qui les Chicanos ?» demande Jimmy, innocemment.
« Nos rivaux, une bande de bikers du sud de la ville !» répond Lloyd, agacé par la question. « Ils viennent voir Lady Di, ces connards !»«
Mais qu'est-ce qu'on fait, Lloyd ?» lui demande le mec qui a aidé à décharger le matos.
« On fait comme d'hab, on provient d'œuf et on se prépare à leur taper sur la gueule !»
Il se retourne vers Burt, puis lui demande
« Il te reste du whisky ?»
Tu rentres du bureau, tu te sers un whisky, parce que t'en as plein d'eau. Battre avec la vie.
Puis surtout, il y a les whisky.
Non.
C'est les drames, ça, les whisky.
C'est la fin de cette émission de rentrée bouquin-bouquine, le laboratoire sonore, l'émission des livres et de ceux qui les dévorent, à retrouver partout en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, et toujours sur le site de Graffiti, urban-radio.com. Massacre, whisky et rock'n'roll, de Tristan Jousselin par Tristan Jousselin, un livre auto-édité, un auteur vendéen donc, un auteur que je vais aller très vite rencontrer, une dystopie éthylique entre une virée en enfer et planète terreur, distorsion musicale et des coups plein la gueule. Trash, gore, métal, rock, bagarre et torgnole, carcéral et quepon, un breuvage dynamité qui ne vous laissera aucun répit. Gueule de bois garantie. C'est haletant, ces chapitres est très court et on suit en temps réel plusieurs scènes, plusieurs personnages, tous en quelque sorte prisonniers encore d'une ville tortionnaire des âmes, Crimson Town, la bien nommée. Méfiez-vous de tout le monde ici, gardez un œil sur la boutanche et laissez-vous prendre au jeu à grands coups de punch par l'écriture de notre auteur, Tristan Jousselin, bientôt dans l'émission pour une interview exceptionnelle. Bouquin Bouquine, en reprise décalée, mais bien rentrée, on se retrouve à peu près une fois tous les deux mois, au mieux, au plus vite, je vais faire en sorte. Toujours un plaisir de vous concocter mes babioles radiophoniques livresques, pour ne rien rater, toutes les infos sur la page Facebook et sur Twitter. Bouquin Bouquine. On se retrouve au plus vite pour de nouvelles aventures. Bonne rentrée, bel automne, bonne lecture, à très bientôt. Ciao.
Prenez le temps de vous détendre un peu. Prenez le temps d'un centering.
Cato! 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 Cato!
本当に分かってんの？なんかとぼけちゃって。サントリーの響きだよ、高いんだから。サントリーの中で一番もっと高級な気持ちでね、日常的なお酒じゃないんだよ。最高な気持ちで。
ブルーアンドステ
サントリータイム。本番よーい、スタート。
Prenez le temps de vous détendre un peu. Prenez le temps d'un Santori.